tous et bienvenue dans le podcast du sel et de la joie et de la bonne humeur. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Bonjour à tous.
De Mordren.
Salut tout le monde.
Et de Pixel.
Ouais, on va décerner le César du meilleur fils de pute cette semaine.
Je vous cache pas qu'il y a de la... Il y a de la compétition cette semaine. Ça va être difficile de se décider, hein, putain. Au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous parlera d'un mode pour Half-Life 2. On enchaînera ensuite sur Warhammer Vermintide. La suite est annoncée, n'est-ce pas? Nous évoquerons The Evil Within 2. Ah oui, pour info, il est sorti, hein. Je sais que Bethesda n'a pas beaucoup communiqué dessus, mais voilà. On parlera de l'analogue Super NT. On enchaînera ensuite sur Nintendo qui encourage la maturité sur sa console, n'est-ce pas? Nous parlerons de CD Projekt, apparemment tout n'est pas rose en Pologne, n'est-ce pas? Nous enchaînerons ensuite sur GameStop qui nous a fait une Patrick Lelay cette semaine, vous allez voir, c'est assez sympathique. On parlera de Activision. Et on va défoncer Activision, en vrai, hein. Ils vont se faire défoncer en direct, voilà. Et enfin, on terminera sur Electronic Arts, qui va se faire défoncer aussi. Comme ça, c'est réglé. Allez, c'est parti. Et on va commencer donc avec un mod pour Half-Life 2. La communauté Half-Life est assez active ces derniers temps. Je rappelle que tous les scénaristes de la franchise se sont barrés et que très récemment, il y a notamment un des scénaristes qui a publié le scénar de l'épisode 3. Donc, il y a déjà un projet qui est lancé là-dessus. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui. On va parler d'un mod qui va restaurer le contenu qui avait été cut du jeu original. Parce que vous savez, hein, ça arrive très régulièrement qu'il y ait pas mal de scènes, etc. qui soient cut, voire des niveaux entiers. Et là, il se trouve apparemment qu'il y avait pas mal de matière pour créer des choses. C'est un contenu qui sera disponible en standalone, de ce que j'ai compris. Et je précise, autant ils se sont inspirés du design original des niveaux, autant c'est vraiment un travail 100% original. C'est pas juste, tu sais, ils ont pris les fichiers et ils ont brodé par-dessus. Ils ont vraiment fait un travail de création. Et ma foi, ça a l'air pas mal. Donc je vous mettrai le lien vers le mod. Et comme d'habitude, ma foi, c'est toujours cool de voir la communauté de Half-Life qui fait du beau taf. Donc ça s'appelle Dark Interval et je vous mettrai le lien sur le Nexus avec toutes les instructions. Voilà.
Ce que je trouve quand même assez cool dans ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait quelque chose d'original sur le jeu de base. Ils sont pas contentés de mettre une meilleure résolution sur ces choses-là. Et je trouve que le rendu, en fait, ça pourrait très bien se rapprocher à ce que Valve aurait pu faire sur Half-Life. Ils se sont vraiment inspirés du jeu et puis ils sont pas trop éloignés non plus de la direction artistique. Donc ça aurait pu être cohérent si Valve aurait sorti ce jeu-là avec ce design-là plus tard, quoi. Ils sont pas partis dans un délire totalement aberrant par rapport à ce qu'on connaît de Half-Life 2, quoi.
Puis c'est un peu comme Black Mesa aussi, qui pour le coup est un remake de Half-Life 1. Par exemple, ils ont dit, ok, la fin de Half-Life 1 c'était de la merde, bah du coup on va la refaire entièrement. Voilà, donc vraiment les fans de Half-Life se sont un peu des gros fous furieux. Respect à eux et on aura au moins peut-être la fin de l'épisode 3. Et qui sait, peut-être qu'un jour, à force d'en avoir un bol d'attendre que Valve fasse Half-Life 3, bah les fans le feront eux-mêmes en fait, tu vois.
Ouais, il sera mis à disposition sur Steam Greenlight et puis
Ah, je te rappelle que Greenlight est mort maintenant, c'est Steam Direct, il n'y a plus qu'un chèque à verser à Valve et c'est bon. D'ailleurs, on en reparlera un de ces quatre. Donc, on va maintenant parler de Warhammer Vermintide 2. Donc Mordren, tu ne vas pas y échapper, hein, ça y est, le looming commence, n'est-ce pas? Donc Warhammer Vermintide, je rappelle, c'est tout simplement un Left 4 Dead-like dans l'univers de Warhammer, hein, tout simplement. Je précise donc que ce nouvel épisode de Warhammer, il y a une nouvelle faction qui sera ajoutée parce que, donc, à la base, il y avait les Skaven qui étaient là, qui étaient les antagonistes principaux du jeu. Et maintenant, il y aura aussi le Chaos qui les accompagnera. Ma foi, c'est très prometteur. Alors par contre, il y a une critique qui a été faite vis-à-vis de ce second épisode, c'est que c'est toujours les mêmes 5 héros. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette critique parce que certes, c'est les mêmes 5 héros. Par contre, chacun de ces héros aura accès à 3 classes différentes. Donc, on pourra les customiser. D'accord. Et ces classes, donc, auront chacune accès à un arsenal. Donc, ça fait un total de 15 classes, plus toute une série d'armes, etc. Donc, même si c'est pas des nouveaux héros à proprement parler, il y aura des skins particulières pour chaque classe.
De toute façon, dans ce genre de jeu-là, c'est juste des avatars, non? Les personnages que l'on joue, c'est pas... Ils ont pas de personnalité ni rien, quoi.
Bah, il y a quand même, tu sais, un peu comme dans Left 4 Dead, des personnages qui balancent des vannes, etc., des petites répliques et tout. Mais honnêtement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le gameplay derrière, comment je vais les jouer, etc.
Ouais, mais je veux dire que ça soit personnage X ou personnage Y, ils sont pas au centre du scénario ni rien, ils ont pas de longs discours. C'est juste des avatars, en fait, qui incarnent le joueur. Et puis au final, que ça soit lui ou bien qu'il soit bleu ou jaune, ça change pas grand-chose, quoi.
Voilà, c'est ça.
Non, en revanche, on aurait peut-être pu imaginer un sixième personnage inédit.
Oui. Mais après, encore une fois, Morhen, je veux dire, regarde les personnages. Enfin, c'est des archétypes.
Ouais, ouais.
Donc, le fait qu'ils mettent, au lieu de ça, trois classes pour chaque perso, enfin, moi, je le vois comme, en fait, ça fait 15 nouveaux persos pour moi, si tu veux.
Oui, oui, clairement. Non, mais les classes, c'est une très bonne nouvelle, par contre.
Oui, c'est ce qui manquait un peu au...
Ouais.
Au jeu de base. Et aussi, alors par contre, ça, c'est des nouveautés qui ont pas été notées, mais moi, je les attends. Le modding.
Ouais.
Ça, très important.
Ah bah, enfin, oui.
Les maps créées par les fans, voilà. Et aussi, et surtout, les serveurs dédiés. Ça, c'est une fonctionnalité qui se perd de nos jours. Mmh. Ça veut dire que le jeu survivra à ses créateurs, n'est-ce pas? Et ma foi, c'est très important. Donc, Morhen, le lobbying commence. Il va falloir que je te travaille au corps, toi, Ben et, et Mamie, pour que vous cédiez, n'est-ce pas? Et on avait pas mal avancé. On s'était juste arrêté à la dernière mission, je me rappelle.
Ah oui, c'est la dernière mission qui nous restait?
Ouais, c'était la toute dernière mission. C'était le boss final, en fait.
D'accord, ok.
Comme quoi, on était allé loin.
Hein. Il me semblait bien qu'on
l'avait
pas terminé.
En tout cas, moi, je sais pas pour toi, mais j'avais passé un très bon moment, en tout cas, sur le jeu, personnellement.
Oui, oui, c'est un excellent Left 4 Dead-like, hein, bien sûr.
Un poil dur, peut-être.
Un poil dur, effectivement. Après, l'avantage, c'est qu'il a énormément de possibilités d'inventaire, enfin d'équipement de chacun des personnages, et du coup, de les modifier avec des runes, etc., etc. Et du coup, trouver sa manière de jouer privilégiée, on va dire. Du coup, avec les classes, ça ne peut que être meilleur a priori. Le seul petit bémol qu'il pouvait y avoir sur Vermintide, c'est que il y avait... de temps en temps un problème de lisibilité puisqu'il y a énormément d'ennemis à l'écran.
Ouais.
Il y a des moments où tu tapes vraiment dans le tas et tu sais pas vraiment ce que tu fais. Et puis bon, tu t'en sors miraculeusement, mais tu sais pas vraiment comment.
Après, ça faisait partie un peu de l'adrénaline, je trouve,
oui.
Du jeu, quoi.
Je pense que du coup, avec l'ajout du chaos, on aura peut-être un peu moins d'ennemis à l'écran, mais plus de manières du coup de les tuer, qui nous demanderont de réfléchir un petit peu plus, parce que là, en l'occurrence, bon, les Skaven, il y avait quelques variétés un peu différentes qui permettaient du coup de changer le gameplay. Avec les corneux, a priori, ça va être intéressant. Et puis, non, c'est un jeu qui avait le mérite de créer une vraie tension. Et puis, quand il joue à plusieurs, c'est vraiment un bonheur, quoi.
Par contre, jouez-y avec des potes, hein. Sérieusement, oui. Parce que j'avais testé de jouer avec des randoms... Enfin, d'ailleurs, on avait testé au début, toi et moi, Morhen,
ouais.
On jouait tous les deux, plus et les méga qui se barrent, qui font des remarques désagréables.
Assez désagréables, ouais.
Ça te gâche l'expérience de jeu.
Ouais, ouais. Clairement.
Comme d'habitude, hein, tu me diras.
Mais comme souvent sur ce genre de jeu, si vous avez pas la team complète avec des potes en coop, tu perds une partie de l'expérience, finalement.
Ouais, tu perds un peu la synergie qui se met en place, parce que tu communiques, tu vois, alors que quand tu joues avec des randoms,
c'est ça.
Si t'as pas le micro, c'est compliqué.
Bah,
quoi.
Après, tu peux être chanceux et tomber sur quelqu'un qui est parfait pour toi, mais souvent...
Et à ce moment-là, rajoute-le en pote sur Steam.
C'est ça.
Bon, allez, on va enchaîner.
Ouais.
Et on va, Pixel, parler maintenant de The Evil Within 2.
Alors, pour The Evil Within 2, il s'agit en fait de la version PC hein, pour la news de cette semaine. C'est un jeu de la troisième personne, hein, ça n'aura échappé à personne. Mais il y a des petits malins qui ont trouvé, en fait, dans la version PC, un mode pour jouer au jeu à la première personne, comme un FPS. Et il y a une vidéo qui tourne sur YouTube, hein, on vous la mettra en lien dans le podcast. Le jeu fonctionne extrêmement bien à la première personne.
Bon, on voit que c'est pas tout à fait terminé, mais franchement, c'est propre.
Effectivement, c'est très très propre, c'est assez fluide, si vous avez un PC pour le faire tourner, parce que The Evil Within 2, bon, sur PC, il est pas super bien optimisé, et bon, on espère un patch salvateur un jour, et c'est super immersif, enfin, on voit le jeu d'une façon quand même différente. Le fait de jouer au clavier, à la souris, à la première personne, on est quand même plus réactif.
Voilà.
Ça se voit dans la vidéo, le personnage est beaucoup plus réactif, il est moins lourdeau qu'à la troisième personne, et même si le jeu, bon, il est pas fait quand t'es à la première personne pour viser, bon, c'est un peu chaud si t'as pas le flingue avec la visée laser, mais alors moi, tu vois, moi, je me suis posé une question quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, et si, pendant le développement du jeu, les développeurs se sont pas dit, et si on faisait un jeu exclusivement VR, tu vois?
Impossible.
Et puis ils se sont dit, bon bah fuck la VR, on va le faire à la standard, à la troisième personne. Et qu'ils ont pas eu le temps de l'enlever, le mode première personne, et qu'ils l'ont laissé sur PC. Bon, sur console, on peut pas le faire. Faut modifier 2-3 fichiers dans l'exécutable du jeu PC.
Ouais, de toute façon, je vous mettrai un lien vers l'article qui explique comment le faire, où j'ai trouvé ça, donc...
Voilà. Mais il est pas impossible que ce mode de première personne soit aussi caché dans la version console, mais qu'on puisse pas y accéder, parce que c'est sur console, justement.
Moi, je trouve que c'est sympa. Une fois que t'as fini le jeu, on va dire de manière classique, si tu veux revenir faire un deuxième run en plus dur. Alors
comme c'est pas la même expérience, exactement. Enfin, pour renouveler le truc, c'est super cool, moi, je trouve.
Bah, surtout dans un jeu d'horreur. La principale qualité des jeux d'horreur, on va dire, c'est leur immersion et le fait d'être à la première personne. Moi, je trouve qu'on est plus immergé dans le jeu, quoi. Parce que tu sais, troisième personne, vu que tu peux voir à 360 degrés, bah, théoriquement, t'as moins peur que dans un jeu où t'es vraiment à la première personne.
Tu vois venir le danger, alors que là, comme ton champ de vision est réduit, bah, tout de suite, tu fais plus attention au son, etc. Donc,
à la troisième personne, tu peux jouer de la caméra en te disant, bon, je me mets dans un coin et je vais regarder ce qui se passe de l'autre côté, voilà.
Par contre, rien à voir avec ce mode de vision, mais Bethesda, arrêtez votre connerie, là, avec cette histoire de « on fait pas les reviews avant la sortie du jeu hein. ». Je sais pas ce qu'il vous faut, là, mais ça fait deux ou trois jeux qui fourrent comme ça. Il y avait Prey aussi qui s'est planté. Il y a Dishonored 2 qui s'est planté. À un moment donné, il faudrait peut-être réaliser que votre politique vis-à-vis de la presse et des youtubeurs, elle est plus nuisible pour la communication de votre jeu qu'autre chose. Moi, votre jeu, il est sorti, là, j'étais pas au courant. J'ai découvert qu'il était sorti au moment où il est arrivé sur Steam.
Ouais. A priori, en plus, c'est pas que des mauvais jeux qui fourrent, quoi.
Ouais,
donc c'est on aurait pu dire ouais c'est parce qu'il est mauvais, mais a priori c'était pas des mauvais jeux quoi.
Bah en fait ça avait bien marché pour Doom et pour Fallout 4, sauf que ils se sont dit que bah super, ça a marché deux fois de suite avec très peu de communication, du coup on va faire pareil pour tous nos jeux. Mais le problème c'est que Prey, bah c'est pas une licence super connue par exemple, et en plus de ça ils ont fait quelque chose de totalement différent par rapport au jeu qui était sorti en 2008 il me semble, enfin dans ces eaux là quoi.
En plus il y a eu l'histoire avec Prey for the Gods avant mauvaise presse, pas possible. La communication chez Bethesda en ce moment, je comprends pas quoi.
Et Dishonored, c'était un jeu qui avait eu un succès d'estime à l'époque où le premier était sorti. Il avait eu des très bons retours joueurs, des très bons retours presse. Par contre, c'était pas non plus le raz-de-marée niveau vente quoi.
Bah, ils étaient satisfaits des ventes du premier, mais le truc c'est que le 2, il l'a fait moins bien que le premier.
Ouais, c'est ça. Bah...
Bon, ça plus les histoires de problèmes d'optimisation sur PC, bon. Ça n'a pas aidé non plus. Enfin bref, c'est dommage qu'ils se plantent, surtout que vous verrez tout à l'heure, hein, les jeux solo en ce moment, c'est pas en odeur sainteté. Hein. Bon, allez, Pixel, tu vas garder la parole. On va partir dans l'univers du rétro, n'est-ce pas? Et on va parler de l'analogue Super NT. Que quoi qu'est-ce?
Alors, l'analogue Super NT, en fait, c'est un clone de la Super NES Mini. Mais là où la Super NES Mini faisait chier parce qu'on pouvait pas faire grand chose avec vu qu'elle était complètement fermée, vu qu'on pouvait pas rajouter de jeux, qu'on pouvait pas mettre ses cartouches d'origine ou mettre ses manettes d'origine.
Ouais bah je veux dire, autant prendre un Raspberry Pi et le foutre dans une coque NES que je trouve sur Amazon. Hein.
Et donc bah il y a des gens qui ont décidé en fait de créer un clone de la Super NES Mini, mais ce clone il fait tout ce que la Super NES Mini fait pas. Il y a quatre coloris disponibles. Il y a le coloris Super Famicom, Super NES américaine. Il y a un coloris tout noir. Et il y a la version transparente, pour ceux qui aiment.
D'accord.
On peut y mettre ses cartouches d'origine. C'est compatible 50-60 Hz.
Oui, donc c'est pas de l'émulation.
Et ce n'est pas de l'émulation. Ça, les développeurs tiennent à le dire. C'est pas de l'émulation software. Hein. Ça utilise ce qu'on appelle une puce FPGA. Alors pour pas trop rentrer dans les détails, parce que je les connais pas tous, parce que je suis pas un super crack en informatique non plus, mais le FPGA, en fait, c'est une puce dont on pourrait écrire le code pour qu'elle imite à la perfection, ou à la quasi-perfection, hein, ça dépend de la qualité du code, une autre puce, sans utiliser le chipset originel.
D'accord.
Donc là, on a une reproduction à l'identique d'une Super Nintendo, c'est-à-dire que l'analogue Super Nintendo va se comporter au niveau hardware, comme une véritable Super Nintendo d'origine. C'est pour ça qu'elle accepte les cartouches d'origine, les manettes Super Nintendo d'origine, hein, quelle que soit la région, puisque la console, elle est region free. Vous pouvez utiliser le Mario Paint avec la souris d'origine, ça va marcher. Les manettes Super Nintendo, ça va marcher. Vous pouvez mettre tous les accessoires, ça va marcher, tout est pris en compte. Il y a une sortie HDMI, donc vous pouvez choisir entre 1080p, 720p et 480p. Vous avez un son audio stéréo 16 bits en 48 kHz hein, pour les spécialistes du son. Donc la première fournée, c'est pour février 2018. Et le prix, il est pour l'instant de 189,99$, enfin 190$.
Donc
américain.
Un tout petit peu plus cher qu'une Super NES Mini, il me semble. Je crois que c'est 150.
Ah non, beaucoup plus cher.
Deux fois plus. Ah, beaucoup plus.
Elle est vendue 90€ en France.
Ah ok, d'accord, autant pour moi. Bon, après, t'as le support cartouche quand même, c'est pas la même chose.
T'as le support cartouche et puis c'est pas la même entreprise que Nintendo. Il est fabriqué pas par centaines de milliers en usine, c'est...
Mais ils ont le droit de faire ça, du coup?
Bah ouais, puisque ça utilise la technologie FPGA, donc c'est pas du piratage.
Ouais, mais c'est quand même... Techniquement, ça.
C'est-à-dire que c'est tes propres cartouches que tu mets là-dedans, en fait.
Ouais, c'est tes propres cartouches.
Sur la console, il n'y a pas marqué Nintendo, hein.
Ah non, il n'y a rien du tout, hein.
Et vous savez qu'il y a des Mega Drive, par exemple, au Brésil, qui sont vendus, c'est pas des Mega Drive de Sega, hein. Donc, du moment qu'il n'y a pas Nintendo sur la console,
Oui, puisque de toute façon, c'est des vrais jeux, entre guillemets, c'est des jeux officiels que tu as achetés et que tu mets dans la console.
Voilà, exactement, c'est... Il n'y a pas de jeu intégré, hein, dans la console. Faut le savoir.
Là, par contre, oui, là, ils auraient des problèmes.
Ouais, là, ils auraient des problèmes. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que on pourra utiliser en fait des manettes sans fil, qui fonctionneront avec un dongle qu'on branchera sur la console et ce sera sans fil. Mais ça marchera aussi avec des manettes sans fil PS4, PS3, Wii et Wii U.
Ça, c'est cool, ça.
Oui. Voilà.
Ça marche aussi comme ça sur les Raspberry Pi.
C'est très intéressant. Bon, le prix est un peu élevé, mais vu ce que la console fait par rapport à la version Nintendo, j'ai envie de dire que ça vaut le coup.
Vu les problèmes de production de Nintendo, dans 6 mois, elle sera ce prix-là, donc. Donc voilà.
Après, tu payes aussi un catalogue sur la Super Nintendo Mini, ce qui est pas le cas du coup de ce modèle-là, mais. Faut savoir ce que tu veux, quoi.
À mon avis, je suis quasiment sûr que ça doit être possible de trouver, tu sais, des espèces de cartouches où tu mets une SD card dedans et c'est lu par la NES, mais enfin bref. En tout cas, très intéressant, surtout le fait que ce soit pas d'émulation logicielle. Pour l'anecdote, il faut savoir que il est possible d'arriver au même résultat avec de l'émulation logicielle, d'avoir, tu sais, une émulation, comme on dit en anglais, accurate. Mm-hmm. Sauf que, en gros, il faut un processeur à 3 GHz pour y arriver. Parce que avoir une émulation précise comme ça, ça demande beaucoup de puissance.
Bien sûr.
Voilà. Sauf que là, c'est pas de l'émulation, donc ça leur coûtera beaucoup moins cher et.
Ouais, ils ont trouvé la bonne solution.
Et c'est marqué dans leur pub, y a pas de lag. Zéro lag. Ça sera ta télé qui va le produire, le lag, malheureusement.
Bon, après, ça dépend de l'électronique qu'il y a dans la télé, etc.
Ouais,
enfin, bref.
Voilà.
Bon, voilà. Donc, un projet intéressant. Si vous avez envie d'investir un peu plus, ça peut être, pour les amateurs de rétro, je pense que le fait de mettre ta cartouche, il y a un petit charme supplémentaire.
C'est sûr.
Surtout par rapport à ce que propose Nintendo, parce que fondamentalement, ce que propose Nintendo, c'est une Raspberry Pi, quoi. Enfin, je suis désolé.
Enfin, je pense pas qu'il y aura beaucoup de gens qui seraient intéressés par ce genre de produit, parce que il y aura pas écrit Nintendo sur la boîte, quoi.
Ouais, non, mais ça, c'est vraiment pour les passionnés de rétro qui veulent la cartouche, quoi.
Et ça va être très bien pour les streamers, en fait.
Ah oui.
Parce que streamer la Super Nintendo d'origine en...
Ouais. C'est pas
en
évident.
Péritel, bon, voilà quoi, c'est chaud.
Oui, mais c'est un vrai marché, hein, l'air de rien.
Ah, c'est un véritable marché, mais qui est... Bizarrement, peu de personnes investissent dedans, mais bon, voilà.
Bon, et puis de toute façon, pour la conservation du jeu vidéo, je trouve ça toujours bien qu'il y ait des consoles qui marchent sur les télés actuelles. Enfin bref.
Oui.
On va maintenant parler de la news de Morgan, ATH. On va parler de Nintendo.
Donc vous savez, Nintendo, la firme avec Mario, Kirby, Pikmin, des jeux tout mignons, tout beaux, tout roses. D'après en fait un récent article qui est apparu sur le journal de Wall Street, Nintendo a confirmé qu'il souhaitait vraiment proposer une large gamme de jeux et même encourager des titres un peu plus matures. Par exemple, on a un créateur de jeux qui s'appelle Takuya Izu, qui est donc le créateur de Galgun, qui travaille chez IndieCreate, qui a dit que on lui a proposé en fait de publier son jeu sur la console de Nintendo, et alors que lui, enfin, au vu de son titre, il a dit que jamais ça ne passerait. Et finalement, il a quand même proposé le titre, et ça a été validé par Nintendo.
Ah, je veux dire, si même Galgun ça passe.
Oui, parce qu'en fait, voilà, on parle de jeu mature. Enfin, pour moi, Galgun, je considère pas ça comme un jeu mature, je considère ça comme un jeu un peu
non,
con,
mais
quoi.
On va dire que c'est un jeu un peu olé olé, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est... Parce que le Pixel, tu peux nous rappeler le principe de Galgun, s'il te plaît?
toi qui es expert en la matière.
Voilà.
Qui a fini le jeu au niveau de la patate chaude.
Non, Galgun, j'y ai jamais joué. J'aimerais bien y jouer, mais ça paraît assez compliqué de se le procurer maintenant, quoi.
Bah, mais c'est pas une Switch, a priori, ça arrive.
Ah ouais. Vous dites jeu olé olé, mais c'est surtout un jeu qui est fait pour des otaku et que des otaku, et c'est pour
comme
ça que...
Comme Serra Kagura, Beach Beach Splash ou des trucs comme ça.
Voilà. Et donc, dans Galgun, en fait, vous contrôlez le rôle d'un étudiant japonais qui a le Galgun. Donc, c'est un pistolet à phéromones ou quelque chose comme ça. Et vous envoyez des espèces de phéromones sur les filles. Et les filles deviennent complètement folles de vous, hystériques. Et le but, c'est de les toucher dans à leur point faible. Et les, parce que c'est une sorte de rail shooter. Et vous tirez sur le point faible des filles. Et elles deviennent folles.
Pour être précis, elles sont folles de toi à la base. Et en fait, quand tu les touches avec ça, elles atteignent un niveau d'extase, d'orgasme, pour ne pas dire, n'est-ce pas? Parce que c'est clairement ça qui est impliqué. Qui fait qu'elles s'évanouissent, quoi. Donc, hashtag le Japon.
Mais moi, enfin, quand j'entends Nintendo souhaite proposer des jeux matures sur leur console, je m'attendrais plutôt à des titres comme Silent Hill. Ah bah non, c'est vrai que Konami a arrêté la publication de Silent Hill.
Bah, cela dit, ça veut dire quand même que si Nintendo en a accepté des jeux comme ça, a priori, je pense qu'ils sont très open. Hein,
sur non, mais bien sûr. Non, mais c'est pour ça que on va pouvoir avoir d'autres jeux, notamment des AAA qui sont réservés à un public, on va dire, un peu plus adulte, même si généralement c'est des shooters un peu concon. Il y a juste écrit 18 ans parce qu'il y a un peu de sang sur la jaquette. Mais finalement, peut-être qu'on aura des jeux qu'on ne voyait pas avant sur les consoles Nintendo qui vont arriver sur leur console, quoi.
Mais ça va dans le bon sens, en tout cas, on en parlait il y a quelques semaines quand je vous disais que bon bah l'Apocalypse arriverait sans doute un jour sur Switch. Là, on est vraiment dans la phase où les vannes sont ouvertes, c'est-à-dire que Nintendo accepte à peu près tout. Et alors, c'est très bien pour le joueur, l'early adopter, qui a acheté sa Switch très tôt et qui est un peu en mal de jeu maintenant qu'il a terminé Zelda. L'avantage, c'est que avec ces vannes ouvertes, en fait, il y a énormément de jeux indépendants qui sont engouffrés dans la brèche. Et maintenant, si l'on en croit les annonces de Bethesda, on arrive aussi avec des jeux matures, ce qui est quelque chose d'assez étonnant pour une console Nintendo. L'air de rien, puisque Doom et Wolfenstein arrivent d'ici la fin d'année. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça montre que Nintendo se sent puissant et ne se sent plus restreint à sa position habituelle, qui était du « oui, ben nous, on fait nos jeux ». Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce que ça montre que la Switch est en très bonne santé. Le démarrage le confirme, et puis bah, du coup, les annonces de Nintendo également. Je retiens surtout l'annonce du coup de Bethesda que certains jeux qui sont matures et qui sont sortis également sur PS4, Xbox One et PC arrivent sur Switch et c'est possible. J'attends de voir leur performance en fin d'année pour voir si d'autres vont être capables de s'engouffrer dans la brèche ou si ça va rester à l'état d'un vœu pieux.
Pour contenter les indés, quoi.
Après, franchement, la Switch est une très très bonne console pour jouer aux indés. J'ai fait une soirée avec des potes hier. Il y a un pote à moi qui est venu avec sa Switch. Et il est venu avec des jeux indépendants que, bon, moi, j'ai pas encore exploré ce catalogue-là, mais il est venu avec un jeu qui s'appelle Lovers in a Dangerous Space Time, qui est un jeu, en fait, qui se joue à 4 et vous contrôlez des postes dans un petit vaisseau.
Ouais.
Dans une galaxie que vous allez explorer. Et donc, t'as un poste de pilotage, t'as 4 postes d'artillerie, un poste d'artillerie lourde et un poste de bouclier. Et chacun, du coup, doit faire en sorte d'aider tout le monde à avancer. Donc, t'as évidemment un pilote, c'est logique. Puis, bon, bah, t'as des artilleurs ou quelqu'un qui gère le bouclier. Et du coup, tout le monde essaie d'avancer avec son petit vaisseau. Et c'est vraiment très intéressant parce que, pour le coup, voilà, bon, on était deux joueurs intéressés et puis deux joueurs un petit peu casus. Et ça marche très, très bien. Et pour le coup, la Switch a cet avantage-là que t'as une Switch, t'as déjà deux manettes.
Mais la vraie question, quand même, Mordrain, excuse-moi, c'est... Ouais. Savoir si ton pote, quand il est venu chez toi, vous êtes monté sur ton toit terrasse et vous avez joué à la Switch en faisant un barbecue, quoi.
Pourquoi tu dis ça?
Bah, par rapport à la publicité.
Parce que tu te rappelles pas de la campagne de promo, absolument fabuleuse de Nintendo.
Ah oui, mais c'est vrai.
Sur le rooftop à
New
York.
Ah, bon.
Ah putain, j'avais déjà oublié. Et oui, c'est vrai que j'ai un rooftop parisien, c'est bien connu. Mais, non, mais en tout cas, c'est vrai que la Switch a cette faculté-là d'être immédiatement, familial et convivial, ce que la Wii avait, ce que la Wii U avait perdu d'ailleurs. Et maintenant, il faut aussi confirmer l'essai en montrant que il y a aussi un public un peu plus mature qui est capable de profiter de la Switch.
Non, mais très clairement, moi je pense pas que Nintendo va éditer eux-mêmes des jeux matures, parce que eux ils vont rester toujours dans ce qu'ils savent faire, mais par contre ça va pas les déranger à ce que Rockstar ou bien EA ou n'importe qui sortent des jeux un peu plus matures. Et là Nintendo, je pense qu'ils veulent pas se retrouver dans une situation où ils sont les seuls leaders sur leur console et qu'il y a que Nintendo et que les autres finalement bah hésitent à sortir leur jeu parce que mauvaise vente.
Tu veux dire qu'ils ont enfin compris que l'un des problèmes de la Wii malgré ses excellentes ventes c'était l'absence des éditeurs tiers et du coup de pas mal de joueurs qui ne veulent pas jouer qu'aux jeux Nintendo. Oh mon dieu.
J'ai vraiment l'impression que Nintendo a compris des choses sur cette génération de consoles et on en parlait déjà récemment, mais enfin le deal sur Mario Lapin Crétin qui pour le coup est un jeu très intéressant.
Super affaire pour Ubisoft quoi. Franchement, c'est
C'est une super affaire pour Ubisoft, mais c'est aussi une super affaire pour Nintendo parce qu'ils envoient le son de cloche que c'est possible d'être un jeu qui n'est pas purement Nintendo et de fonctionner.
Bien sûr.
Et c'est ce qu'ils avaient essayé de faire avec Zombie U à l'époque de la Wii U qui avait pour le coup pas marché.
Ouais.
Là, ils ont réussi.
Et par contre, on se rappelle très bien que Nintendo, à l'époque, nous avait dit « Oui, on va essayer de délivrer un peu nos licences à d'autres studios qui voudraient bosser dessus. » Et ben là, en fait, Ubisoft, ça, c'était les premiers à en profiter. Et je pense que ce genre de partenariat à l'avenir, ça pourrait être de plus en plus possible. Mais en même temps, Nintendo, tu vois, ils ont changé de PDG. Maintenant, ils sont vraiment sur une optique un peu de d'ouverture d'esprit. Et en plus, ça, enfin, faut pas oublier que le nouveau PDG de Nintendo, c'est quand même un financier. Et donc lui, je pense que partout où il peut imprimer des billets, il le fera, quoi.
Après, faut faire attention aussi que ces partenariats soient aussi qualitatifs que celui qui a lié Nintendo à Ubisoft sur Mario Lapin Crétin.
Je me fais pas de soucis. Nintendo est tellement regardant sur son image de marque et que bon. Ok. Alors, par contre, une boîte qui a eu quelques soucis d'image de marque ces derniers temps, à mon grand étonnement d'ailleurs, c'est CD Projekt. Parce que il y a un site qui s'appelle Glassdoor, qui est un site en gros où les employés viennent poster des évaluations sur l'ancien employeur. De manière, je précise, anonyme. Alors quand je dis de manière anonyme, soyons précis, il doit donner une adresse professionnelle, mais le site n'affiche pas cette adresse professionnelle.
Mmh.
Et donc, CD Projekt s'est fait particulièrement taillé en pièces. Apparemment, il y a l'effectif qui tourne en permanence, les gens arrivent, ils repartent, il y a des gens qui disent « j'arrive même pas à comprendre comment on a fait pour sortir un jeu comme The Witcher 3 ». Apparemment, enfin tu sais, c'est le problème habituel dans les entreprises qui marchent pas en fait. Apparemment, pour sortir un jeu comme The Witcher 3, c'est du crunch, mais pas le crunch habituel, tu sais, c'est le crunch permanent en fait. Et ça, c'est quand même un petit souci, parce que bon, on a déjà évoqué dans l'industrie tous les problèmes que ça posait, les gens qui voyaient jamais leur famille, etc. Enfin bref.
Bah CF Red Dead Redemption où c'était les femmes des employés du studio qui étaient venues se plaindre auprès de Rockstar parce que elles ne voyaient plus leur mari quoi.
Ouais, c'est bon. Le fait que ce soit anonyme, on va dire que les gens ont fortement mis en doute ces affirmations et ce d'autant plus que auprès de nous les joueurs, on va pas se le cacher, CD Projekt, c'est un peu nos dieux vivants, quoi, quand même. Hein. Enfin, j'ai rarement vu une boîte aussi grosse traiter aussi bien ses clients. Et d'ailleurs, certains employés le disent, oui, effectivement, ils traitent très bien leurs clients, mais leurs salariés, par contre, c'est une autre histoire. Voilà. Bon, c'était un peu, t'avais cette histoire qui était sortie, il n'y avait pas eu de réaction spéciale, etc. Et puis là, communiqué de CD Projekt sur Twitter, où ils expliquent que ils ont bien remarqué qu'il y avait eu ces commentaires sur Glassdoor. D'ailleurs, ils ne nient pas les allégations des anciens employés. Et ils précisent juste que, bah écoutez, en tout cas, Cyberpunk 2077, donc qui est leur prochain projet, ça va super bien, vous inquiétez pas. Alors par contre, ils précisent une chose, c'est que nous, notre politique chez CD Projekt, c'est un peu toujours de réinventer la roue. Et donc, des fois, cette manière de fonctionner, ça convient pas à tout le monde. Parce que pour pas mal de gens, bah écoute, moi mon truc il fonctionne bien, je vois pas pourquoi je changerais. Et ben non, nous on fonctionne pas comme ça, nous on a besoin à chaque fois d'innover, etc. Enfin bref. Je vous mettrai le lien vers le communiqué, comme ça vous pourrez le lire dans le détail. Ce que j'ai retenu, moi, surtout de ce communiqué, c'est que CD Projekt a réagi. Et qu'il ne nie pas, dans le fond, les allégations des employés. Et du coup, ça veut dire qu'il y a vraiment des problèmes de personnel, etc. chez CD Projekt. Moi, ça fait un petit peu chier parce que CD Projekt, c'est une boîte que j'apprécie. Mais étant quelqu'un qui a fait partie d'une certaine société que je ne nommerai pas ici et qui a passé, on va dire, un assez mauvais moment, n'est-ce pas, dans la dite société, je dois vous avouer que je m'identifie très bien aux employés. Et je voulais juste dire une chose, c'est que c'est pas parce qu'une boîte est sympa avec ses clients que ça la dispense du fait de bien traiter ses employés.
Oh oui.
Non, mais clairement. Mais de toute façon, enfin, dans ce genre de cas-là, c'est très difficile pour avoir un avis extérieur parce que nous, on n'est pas directement sur place. C'est que des on-dit et malheureusement, pour savoir la vérité de l'histoire, je pense qu'il y a un peu du vrai des deux côtés. C'est-à-dire que CD Projekt, en fait, a connu une grande période où voilà, ils embauchaient, puis il y avait beaucoup de charges de travail qui s'accumulaient.
Ils ont doublé, je crois, le nombre d'employés à un moment donné.
Exactement. Au début, ils étaient 200, maintenant ils sont à peu près 400. Et ils continuent toujours, en fait, à recruter, d'après les dires du cofondateur du studio, parce qu'ils sont toujours en demande. Moi, je pense que si les employés quand même se plaignent, c'est qu'il y a une raison. Ils s'amusent pas à dénigrer leur boîte pour le plaisir.
Et puis bon, il y a quand même autre chose qui est dérangeant dans le discours de CD Projekt. C'est quand on pointe du doigt le fait que t'as des personnes aussi importantes que ton producteur, ton chef de projet, ton responsable de la conception des niveaux, qui ont tenu moins d'un an dans la boîte. Et tout ce que t'as à dire, c'est « Oui, vous comprenez, un projet tel que celui-là, il peut pas reposer sur les épaules d'une ou deux personnes. » Sauf que à un moment donné, le discours du tout le monde est remplaçable,
notamment,
je suis désolé, ça s'est limité.
Les créatifs, les postes clés, les scénaristes et tout ça. Si ton créatif qui a la direction du jeu, la vision globale de ce que va être le jeu une fois sorti et la direction que doit suivre le projet, bah si le mec il se barre, enfin voilà quoi, le jeu il va ressembler à quoi au final? Ça va faire un peu un projet un peu bancal. Mais enfin. CD Projekt, c'est une boîte que j'aime bien parce qu'elle respecte les joueurs, mais par contre, ce qui se passe avec les employeurs en ce moment, c'est pas super cool. J'espère que ils trouveront rapidement une solution par rapport à ça. Enfin, de toute façon, parce que les clients, c'est nous qui payons, donc d'un côté, être sympa, normalement, ça devrait être la norme pour toutes les entreprises, tu vois.
Bah, pourquoi je voulais parler de cet article aussi? Parce que j'ai lu pas mal de commentaires où les gens défendent de manière assez virulente, on va dire, CD Projekt. Les gens ne vous fient surtout pas à la communication des entreprises. J'en sais quelque chose. C'est pas parce qu'on est sympa avec vous que ça se passe bien en interne. Dites-vous ça.
Et surtout que c'est des projets qui a quelque chose à vous vendre alors que les employés, eux, ils font leur boulot, quoi.
Et surtout, c'est important que ces employés s'expriment parce que si ce qui est dit, ne serait-ce que la moitié est vrai, ça aura forcément un impact sur le résultat final.
Et non, mais surtout, enfin, les gens qui critiquent, moi, je trouve que quand même, à mon avis, c'est des gens qui connaissent pas ce que c'est que d'avoir la peur au ventre, d'aller au boulot tous les jours, et puis, enfin, tu vois, je connais pas les emplois de chacun qui ont posté des commentaires ou quoi que ce soit, mais je veux dire, dans un travail, quand même, moi, ça me ferait chier de me lever tous les matins et de me dire, putain, j'ai pas envie d'aller au boulot parce que, je sais que ça va mal se passer, tu vois, j'ai pas envie d'y aller au boulot avec la boule au ventre parce que...
Et ce d'autant plus que, à la base, t'es allé dans cette boîte parce que c'était la boîte de tes rêves, qu'ils avaient sorti des jeux comme The Witcher, etc., et que, tu fais face à la réalité à un moment donné, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Et tu tombes de haut. Parce que il paraît qu'en plus, le plus gros turnover chez CD Projekt, c'est pas les employés polonais. C'est les employés qui viennent de l'étranger, de l'international, et qui arrivent là, qui découvrent les conditions de travail, qui fait « Oh non, merci,
salut !» Ça dénote
salut.
Quand même d'un malaise et d'une déception, finalement, de voir des gens arriver et puis partir. Des gens qui avaient envie de venir, quoi.
Ouais.
Je pense que le simple fait qu'il y ait plusieurs témoignages qui soient sortis et qui tournent autour de la même chose dénote vraiment d'un malaise et d'un mal-être à l'intérieur de la boîte. Alors évidemment, il est probablement pas généralisé. Il y a des gens qui fonctionnent beaucoup mieux sous la pression que d'autres. Hein. Alors c'est bien qu'ils aient réagi, c'est des projets, mais ça serait aussi bien qu'ils réagissent en interne.
Oui, ça serait bien que ça ne soit pas que de la com.
Voilà, et qu'ils fassent attention à justement que ce genre de schéma se généralise pas non plus. Et mieux encore, qu'ils fassent en sorte que ça s'estompe.
Pour terminer là-dessus, le fait de sortir des bons jeux, ça n'excuse pas d'imposer des périodes de crunch absolument délirantes à ses employés. Je suis désolé, on a beau apprécier la boîte, à un moment donné, je préfère qu'un jeu y sorte en retard, qu'il soit fait dans des conditions de travail décentes, plutôt que des gens perdent leur vie à bosser, quoi. Moi, je peux pas valider ce genre de choses, quoi.
Ah, bien sûr.
Bon, vous l'aurez compris, là, c'est une news qui me fait chier, en fait, parce que c'est le projet, c'est une boîte que j'apprécie, hein, mais À un moment donné, on peut pas tout justifier parce qu'on est sympa avec ses clients. Voilà.
Désolé, quand une boîte fait de la merde, on est obligé de le dire, quoi. On peut pas passer sous silence. Ah non, Activision, ils font Call of Duty, j'aime bien Call of Duty, donc on va pas parler d'eux cette semaine, tu vois. Ils ont viré 450 employés, mais voilà.
Bon, d'ailleurs, à ce propos, je vous mettrai un lien vers un YouTuber que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Yongia, qui fait des vidéos qui sont très basées sur les déclarations officielles et qui recoupent énormément les informations. Vous verrez notamment ce qu'il a à dire sur cette histoire. Voilà. Allez, on va passer à la suite et on va parler, Pixel, de GameStop. Là, on commence à rentrer dans le dur, là, vous allez voir.
Il est où placé pour le César du fils de... Il n'y a pas de problème. Il est bien placé. Alors, GameStop, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est en fait la plus grosse chaîne de magasins de jeux vidéo aux États-Unis et même dans le monde, d'ailleurs.
Qui possède Micromania.
Voilà, ils ont racheté Micromania il y a quelques années.
Micromania Zing, d'ailleurs, depuis cette semaine.
Oui, qui a changé de nom.
Ouais, effectivement.
Parce que Micromania a fusionné avec Zing, qui fait du...
Des produits dérivés.
Ouais.
Voilà, du merchandising avec des produits dérivés... manga, comics, geek, tout ce que vous voulez, quoi. Mais bref, on est ici pour parler de GameStop. Alors, GameStop, c'est un peu comme Micromania, de toute façon, ils font des offres spéciales de précommande. Et GameStop, ils sont habitués depuis quelques années à faire quand même des coups de pute. Et là, je veux dire qu'ils sont allés assez loin, assez haut.
On va dire qu'ils assument, là. C'est...
Voilà, et là, sans faire de jeu de mots, ils sont allés tout en haut de la pyramide hein, pour faire leur coup de pute.
Vous l'aurez compris, on parle d'Assassin's Creed.
Voilà, parce que pour leur dernière pub de pré-order, donc de pré-achat pour Assassin's Creed Origins, pour l'instant, si j'ai bien compris, ça ne concerne que les États-Unis. Bon, vu que GameStop a racheté Micromania, peut-être qu'ils vont le faire aussi en France, j'en sais rien. Mais pour l'instant, ça concerne que les Américains. Et cette pub, en fait... C'est une pub sur laquelle on peut cliquer. En fait, c'est une pub, on va dire, animée. Et donc, quand on clique dessus, il y a une espèce de dromadaire, en fait, qui vient vous dire « Attention, désolé, la mission bonus est bloquée. Okay. À moins que vous préachetiez Assassin's Creed Origins, sous-entendu chez nous, c'est-à-dire chez GameStop. »
Ils sont sérieux.
Voilà. Et ça, au début, les gens croyaient que c'était du fake. En fait, c'est une véritable pub 100% officielle de chez GameStop. Bon, on savait que GameStop, c'était quand même des spécialistes du coup de pute, mais là, le cynisme va à un niveau jamais vu, c'est-à-dire que les mecs n'en ont absolument plus rien à foutre. Ils vous disent carrément que oui, nous sommes allés voir Ubisoft, on leur a donné un gros chèque en or massif, et ils ont coupé une mission à la tronçonneuse pour nous la donner à nous. Et si vous voulez cette mission spéciale, bah, il faudra dépenser votre argent chez nous et pas chez la concurrence.
En plus, la gueule du dromadaire qui sous clairement ta gueule, hein, je précise.
Ah ouais, c'est cynique, mais à mort, quoi. Les mecs, ils se cachent plus, hein. Fuck you, quoi. Carrément. Puis, il y a des gens qui vont l'acheter, hein. Ça, j'en suis sûr et certain, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, il y a aussi, Ubisoft qui est dans le coup, parce que Ubisoft, c'est eux quand même qui ont un droit de regard sur leur jeu, vu que c'est leur jeu leur appartient. Donc oui. si GameStop a fait ce genre de pub, c'est que Ubisoft a accepté.
Quoique, vu la communication habituelle des éditeurs, où ils te font passer ça pour un cadeau, je suis pas sûr qu'ils étaient au courant. Parce que à mon avis, les marketeurs de chez Ubisoft, ils ont dû voir la pub, ils ont dû sauter en l'air. qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, tout à l'heure j'ai évoqué un nom, c'est celui de Patrick Lelay quand j'ai parlé de cette pub. Et en fait, je voudrais juste dire une chose. Alors certes, je comprends que les gens soient énervés par cette pub, moi aussi elle m'énerve. Mais d'un autre côté, un peu comme la déclaration de Patrick Lelay à l'époque par rapport à TF1. Donc je rappelle, hein, Patrick Lelay, ancien PDG de TF1, etc. Où il disait que TF1 vendait du temps de cerveau disponible aux annonceurs. Bah, c'est un peu la pub la plus honnête que j'ai jamais vue, hein, en vrai. Hein. Parce que d'habitude, c'est pas du contenu qu'on a retiré du jeu. Non, 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 c'est une mission bonus. Là, au moins, c'est honnête. C'est-à-dire que on te dit, le contenu il a été retiré du jeu, c'est une mission qui est bloquée, et il va falloir que tu payes maintenant. Crache ton pognon, s'il te plaît. Non, excusez-moi, je le corrige. Crache ton pognon, connard, pour avoir ta mission. Donc, au moins, ça a le mérite de la franchise. Je préfère ça à la novlangue, à la limite. Mais ça veut dire, par contre, que on en est à un stade, si vous voulez, où les mecs ont même plus honte. C'est ça qui est important aussi à noter quand même.
Et si tu précommandes 2 semaines à l'avance, avant la date de précommande, tu as même le molar du chameau en bonus.
Voilà, c'est ça.
Enfin, comme tu l'as très bien dit, avant c'était toujours, vous savez, oui, c'est des missions bonus qui sont en plus avec le jeu, uniquement pour vous si vous achetez chez nous, ou bien vous avez uniquement cette arme-là si vous achetez le jeu dans notre enseigne. Alors que là, en fait, ça montre en fait très clairement l'envers du décor. Les grosses boîtes comme GameStop, Micromania et les autres anciennes dans les autres pays deal directement avec les éditeurs pour avoir du contenu qui est
que t'es du jeu.
Voilà, pour voilà. qu'ils puissent le en fait entre guillemets les revendre dans leur boutique. Et notamment, c'est beaucoup Ubisoft qui fait ça pour les précommandes de leurs jeux.
Ah ouais, non mais c'est infernal en fait.
Je crois que c'était pour l'édition collector de Assassin's Creed Unity. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait tellement d'éditions, genre il y avait l'édition Ultimate, l'édition Gold, l'édition machin chouette, et en fait la plus grosse édition, donc on pouvait pas tous les contenus des autres éditions quoi. Moi enfin je trouve ça un peu con sur le principe d'enlever du contenu aux joueurs pour qu'ils viennent acheter dans le magasin, mais après j'ai envie de dire leurs missions bonus qui sont proposées en général c'est vraiment pas terrible, donc du coup pour l'instant j'ai pas trop à m'en plaindre, mais c'est vrai que ça tend à se démocratiser un peu plus, et du coup un jour quelle sera l'enseigne qui nous dira si vous achetez le jeu chez nous vous aurez la fin du jeu chez nous, sinon vous devrez payer le DLC.
Bah écoute, vu le niveau de fistbuterie en ce moment, je pense qu'on va y arriver pas tard, tu vois. Mais
ah, par contre, il devra lâcher un gros chèque, hein, l'enseigne qui fera ça pour avoir ce genre de deal commercial. Il devra lâcher un gros chèque.
Je propose qu'on passe au candidat suivant au César de la fistbuterie, n'est-ce pas?
Next.
Alors là, c'est pas mal gratiné. Là, on passe à Activision ADH.
Exactement. Alors Activision a déposé un brevet en 2015. Qui a été détecté par Glixel. Donc, en fait, ce brevet, qu'est-ce qui se passe? Dans ce brevet, il y a plusieurs manipulations invisibles qui ont pour but d'inciter le joueur à l'achat de contenu en jeu. Un joueur qui est novice va être mis dans une partie avec un joueur un peu plus expérimenté. Par exemple, admettons que dans son profil, le joueur souhaite être un tireur d'élite hors pair. Bah, on va le mettre face à face avec un tireur d'élite qui a vraiment une bonne arme et qui va être vraiment un killer, quoi, qui a vraiment des très bons ratios, etc. Donc on va l'inciter, si vous voulez.
MVP, quoi.
Voilà. Mais en fait, si vous voulez, là, le matchmaking va truquer. À la place de mettre des joueurs de votre niveau, il va vous mettre contre des joueurs contre qui vous allez vous sentir ridicule pour que vous vous sentiez tellement nul que vous avez envie d'acheter la même arme que le joueur expérimenté a eu. Et du coup, quand vous achetez cette arme-là, votre prochain matchmaking va être en votre faveur. C'est-à-dire, il va vous mettre avec des doubles totalement nul, pour que vous vous sentiez, en fait, si vous voulez, puissant, quoi.
Ou en tout cas, il te mettra, par exemple, dans une map où les snipers ont un avantage sur les autres, tu vois.
Et même un matchmaking qui va essayer de vous mettre avec des joueurs qui ont des moins bons ratios que vous, pour que vous vous sentiez que, voilà, votre carte bleue vous a donné un peu ce sentiment d'adrénaline dans le cerveau, vous vous sentez puissant, vous dites, ah, mais oui, mais en fait, avec cette arme-là, je me sens...
Grâce à ça, je suis un bâtard.
Voilà. C'est tout bête, mais en fait, ça va se passer sous l'action, en fait, de... action, récompense. Exactement comme pour les chiens, vous savez, un chien, quand vous lui dites donne-moi la patte, hop, vous lui donnez une croquette. Et bah là, c'est la même chose. La carte bleue, achat du nouveau fusil, récompense immédiate.
Ou comme on dirait dans Big Bang Theory, chocolate.
Voilà. Et du coup, mais ça là, on commence à rentrer dans des manipulations, des comportements.
C'est du
quoi.
Conditionnement en fait.
C'est
hein
ça, oui. C'est non, mais, clairement quoi, c'est du conditionnement. Voilà, en fait, les joueurs, bientôt, c'est, on n'aura plus qu'à aller à l'abattage quoi. Enfin, c'est du conditionnement d'être humain.
C'est formidable. Et en plus, au passage, évidemment, bon, ça, c'est le petit effet qui se coule, hein. On te pète complètement le matchmaking d'un jeu.
Ouais.
Pour vendre des trucs, quoi. On en arrive à un stade où on détériore l'expérience de jeu volontairement pour que les gens dépensent du pognon.
C'est ça.
C'est fabuleux. Moi, je dis chapeau l'artiste, hein. Là,
et en fait, la fille de puterie ultime, en fait, c'est juste que ça va flatter l'utilisateur qui paye. Mais par contre, le mec qui paye pas, il va se retrouver toujours contre des mecs bien plus forts que lui, qui vont lui rouler dessus, etc. L'équilibre, on n'en parle même plus, quoi, du jeu. C'est complètement dégueulasse, quoi.
Précisons tout de même que Activision a bien dit que c'était pas implémenté, hein, mm-hmm. pour le moment.
Pour le moment, oui.
Pour le moment,
wait
hein.
for it.
Bah, Destiny 3, peut-être, s'il y a du...
Ou une extension de Destiny 2. Enfin, ça peut venir vite, hein, ce genre de choses. Hein.
Ou bah même Call of Duty qui arrive cette année. Il est pas encore sorti techniquement, donc il est pas implémenté encore.
Par contre, ce que je trouve bien, c'est qu'ils ont breveté ça. Donc, si vous pouviez faire une guerre des brevets sur les fiches de puterie de ce genre, pour une fois que les brevets serviraient à quelque chose, que ce soit cantonné chez Activision, tu vois, en fait.
Et n'oubliez pas, si vous aimez bien cette news, lâchez le petit like qui fait plaisir. Et à 200 000 likes, on fait une prochaine vidéo sur Ubisoft. Merci beaucoup.
Voilà, c'est ça. Oh putain. Bon, messieurs, je pense qu'on n'a pas grand-chose à rajouter. On peut passer au dernier candidat de la fiche de puterie, n'est-ce pas?
Ah. Ouais.
Alors, c'est le champion en titre, hein, je précise, donc
il avait remporté l'édition 2015, 2016, et peut-être...
Je rappelle quand même que Electronic Arts a plusieurs fois été élu comme la pire entreprise à côté de boîtes comme Monsanto. Bon, après, quand même, c'était un peu ridicule, hein, parce que Monsanto, à mon avis, est mille fois plus dangereux qu'Electronic Arts. Hein,
non, c'est juste que Electronic Arts, elle est plus connue que Monsanto au terme du grand public. Et du coup, Monsanto, en fait, les gens ne connaissent pas vraiment leurs investissements.
Disons que par défaut, on va dire qu'en tout cas, il a gagné le prix du plus grand fils de pute dans le domaine du jeu vidéo, tu
Exactement.
Vois.
Exactement.
Du coup, il remet son titre en jeu, là, et il est chaud bouillant.
Ah, non, mais franchement,
je crois qu'il a fait le play of the game, quand même.
Donc, Morren, qu'est-ce qui nous a sorti comme stratégie cette année pour être le grand gagnant?
Alors, vous rappelez que Electronic Arts, c'est le seul détenteur de la licence Star Wars en termes d'adaptation de jeux vidéo. Il avait d'ailleurs confié, au-delà de DICE et Battlefront, un nouveau jeu d'action-aventure au studio Visceral Games, qui s'était occupé de Dead Space, rappelons-le. C'était donc un jeu qui était donc imaginé par Amy Henning, qui devait donc être un jeu d'action-aventure qui, sur le principe, faisait éventuellement penser à peut-être un petit peu de Uncharted, quoi.
Ouais. D'ailleurs, rappelons, hein, Amy Henning, Soul Reaver, Uncharted, voilà.
Voilà. Bon, ça faisait quand même un long moment qu'on n'avait pas eu de nouvelles de ce jeu-là. On n'avait pas entendu parler à l'E3, enfin bref. Et il se trouve, en fait, que la dernière fois qu'on a entendu parler de ce jeu, c'est pour apprendre la fermeture de Visceral Games. Il se trouve que Electronic Arts a écouté un certain nombre de comment on appelle ça, de panels d'utilisateurs de tests en fait du jeu en l'état, et s'est rendu compte que pour beaucoup de retours, il y avait cette volonté de ne pas avoir qu'un pur jeu d'aventure, mais un jeu sur lequel tu peux revenir plusieurs fois. Donc voilà, ça vous fait penser un petit peu aux jeux à service, tout ça.
Ou même des jeux au monde ouvert aussi, bon, ce qui n'est pas compatible avec le jeu à service, ça dit en passant.
Exactement. Et du coup, en fait, ils se sont dit, bon bah on va devoir faire pivoter le design du jeu. Et au lieu de faire pivoter le design du jeu à l'intérieur même du studio, ils se sont dit non, bon allez, on s'en lave les mains, Visceral Games, c'est terminé. On reprend en main tous les assets et ce qui avait déjà été fait sur ce jeu-là, et puis ben on recommence avec quelqu'un d'autre. Et énorme coup de tonnerre dans l'industrie, parce que c'est pas un petit studio, et il y a donc énormément de gens qui ont été licenciés du fait de cette décision-là d'Electronic Arts.
En plus, c'est un studio qui est cher au cœur des joueurs, parce que c'est Dead Space, quoi. Enfin,
bah, Dead Space, c'est pas rien, quoi, comme licence.
D'Antiferno, bon, qui avait moins marché, mais qui avait une identité aussi, enfin...
Mmh. Après, ils avaient fait aussi Army of Two, Cartel du Diable, et aussi Battlefield Hardline.
Ouais, mais ça, tu vois, c'est au moment où Electronic Arts a commencé à foutre son nez dedans, et leur a dit, vous faites ça.
Ils avaient fait Dead Space 1, Dead Space 2, qui étaient très bons en termes de retour critique, appréciés par les joueurs. Malheureusement, ils n'avaient pas fait d'énormes scores
de
vente.
Pour moi, Dead Space 2, c'était le même problème que Tomb Raider. C'est les attentes délirantes des éditeurs par rapport à ce type de licence. C'était quand même 4 millions de ventes, Dead Space 2. Et pour Electronic Arts, c'était pas assez. Donc, on est exactement dans le cas de Square Enix, tu vois, avec Tomb Raider.
Exactement.
On explique que on a des attentes surréalistes pour un jeu d'horreur, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les marketeurs ont commencé à fourrer leur nez dans le design. Il y a des vidéos qui traînent sur Internet qui parlent des intentions originales du design de Dead Space 3. À la base, je crois qu'ils voulaient faire un jeu qui serait basé sur la schizophrénie, en fait.
Pas assez vendeur.
Voilà.
Tu comprends, il fallait mettre du coop et un jeu d'horreur en coop, déjà c'est totalement logique. Premier Dead Space, on est dans une station abandonnée, on est seul. Il y a une ambiance vraiment malsaine à tous les coins, il y a tu sais pas, il y a une espèce de monstre qui est totalement bizarre qui te court derrière, tu le coupes en deux etc avec ton pistolet cutter. Il y avait vraiment quelque chose qui te faisait flipper, qui te prenait au trip. Dead Space 3, c'est devenu un TPS.
Du coup, c'est un jeu qui n'intéressait personne, parce que les fans de la franchise, ça les intéressait pas, et le grand public, qui connaissait pas Dead Space. Donc voilà, problème solved, a plus Dead Space. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Electronic Arts les a mis dans des projets de plus en plus nazes.
Exactement.
Que des projets qui sont plantés, évidemment. Et puis voilà, bah j'ai envie de dire, c'est la conclusion, quoi. Moi, ce que je comprends pas, c'est que on me dit, on va changer le design du jeu pour répondre aux attentes des consommateurs. Bon, soit dit en passant, Electronic Arts, à un moment donné, je pense qu'il va falloir remplacer le A d'Electronic Arts par quelque chose. B, par exemple, Electronic Business, Electronic Bastards, enfin, un truc qui colle à l'identité de la boîte, tu vois, parce que Arts, a priori, l'art, vous en avez plus rien à foutre. Hein,
non, mais dire, c'est surtout que avoir des retours d'utilisateurs n'empêche pas d'avoir sa propre vision et d'insister quand t'es sûr.
Oui, non, mais la vision faire, créative, Mandren, ils s'en foutent chez Electronic Arts.
Ça me dépasse.
C'est du pur business là. C'est on voit que ça le consommateur il veut ça, le consommateur. Bon, on va lui donner
fou.
Ça.
C'est fou.
Voilà. Donc l'art chez Electronic Arts, moi je suis désolé, il a plus sa place.
Non mais ça fait déjà un petit ça fait un moment qu'il a plus sa place l'art chez Electronic Arts.
Disons que ça arrivait à Electronic Arts de sortir des jeux comme Mirror's Edge,
oui,
comme
non,
Dead Space.
Mais bien sûr.
C'est arrivé, tu vois. Mais là, ils assument ouvertement le fait qu'ils font des jeux pour le consommateur, et donc, voilà. Non, mais à la limite, j'ai même pas envie de parler de ça, tu vois. Pourquoi on ferme le studio? Je pose une question con, hein. Ils avaient pas les compétences chez Visceral pour faire un jeu à service ou un jeu en monde ouvert, vu que c'est vers ces options-là qu'on se dirige, a priori? Non?
Mais moi, enfin, le truc qui me fait marrer avec cette histoire chez, concernant Visceral Games, c'est donc que Visceral Games avait donc embauché Amy Henning pour développer ce Star Wars avec une histoire assez présente et vraiment basée sur un jeu linéaire, etc. Je me demande juste pourquoi on ne peut plus sortir des jeux linéaires aujourd'hui en 2017 avec une histoire bien écrite, un jeu, si tu veux même popcorn, mais qui a une histoire assez sympa à suivre, et que tu avances dans le jeu, et une fois que t'as fini le jeu, bah, ça te fait comme un film, ça te fait comme un roman, si c'est quelque chose que tu as vécu, il y a quelque chose derrière. Et puis, voilà, enfin, c'est pas interdit de sortir non plus des jeux linéaires en 2017, on n'est pas obligé de faire des mondes ouverts.
Parce que les jeux linéaires, c'est des jeux qui ont une période de jeu donnée.
Oui.
Qui, a priori, vont avoir une replay value un peu moindre par rapport, évidemment, à des jeux en monde ouvert, et du coup, c'est des jeux sur lesquels tu peux pas faire de microtransactions, ou très peu.
Mandrin, je suis d'accord avec toi. Sauf que, votre jeu Star Wars Game of Service, bah vous avez Star Wars Battlefront 2, non? Vous avez des jeux Star Wars qui sont prévus sur pas mal d'années avec le contrat que vous avez signé avec Disney. Dans l'eau, vous pouvez caser un jeu à histoire pour les gens qui aiment bien les jeux à histoire. Parce que moi, enfin, si vous mettez un jeu avec une histoire qui a quelque chose derrière, mais que pour faire cette histoire-là, bah il faut que j'achète des putains de coffres sur mon chemin. Ton jeu, je veux pas l'acheter, mais c'est niette, quoi. Moi, je veux un jeu complet, que je puisse le finir une fois pour toutes, et une fois que je l'ai fini, bah si je l'ai plus, bah tant mieux, mais j'ai pas envie de revenir dessus pour vous faire
plaisir. Mais les éditeurs, ça les intéresse plus, ça, ATH.
Ah, mais moi, je vais payer mon jeu une fois pour toutes.
Ouais, mais eux, ça les intéresse pas, c'est justement, ils veulent des consommateurs qui vont leur acheter des DLC, et qui vont payer, qui que tu sois, que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en échappes, c'est tout, quoi.
Je suis désolé. En tant que grande boîte, tu ne peux pas te baser que sur un seul modèle économique qui est toujours le même. Tu te diversifies.
Ah non, mais tu pars du principe que c'est des gens rationnels, ATH.
Non, mais au bout d'un moment, les mecs, faut pas être cons, quoi. Donnez-moi un jeu Star Wars qui conviendrait à moi comme client. Je veux juste payer mon jeu, pouvoir y jouer, et j'en parle plus. Après, pour les gens qui veulent du contenu additionnel, etc., bah vous avez Star Wars Battlefront, vous avez d'autres jeux Star Wars qui vont arriver, donc je suis sûr qu'il y aura des microtransactions dedans.
Puis je suis sûr qu'il y aura plein de jeux Electronic Arts avec des microtransactions, hein, donc.
Non, mais ça c'est sûr, c'est sûr et certain. Mais là je te parle vraiment sur la gamme de jeux Star Wars, quoi. Parce que moi le jeu Star Wars qui m'intéressait le plus c'était celui-là. Maintenant tu me dis que le jeu va complètement changer de vision des choses, etc. Je vais voir à quoi ça ressemble, je vais faire bon, allez, hop, salut. Enfin, je suis désolé, mais
non, je voudrais quand même dire aux gens qui défendent ce truc, parce qu'il y en a, hein, il y en a quelques-uns quand même, surtout des journalistes économiques outre-Atlantique, etc. On nous explique que les jeux solo, c'est très risqué, vous comprenez, on peut pas se faire de l'argent une fois que le jeu est sorti, etc. Blablabla. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer le jour où tout le monde fera des jeux à service? Est-ce que vous croyez qu'il y a de la place pour tout le monde? Je pose une question con, hein. Est-ce que vous croyez sérieusement qu'une personne qui s'est investie dans un jeu va jouer à 36 jeux de ce genre-là?
Non.
En plus, autre chose. Personne, je dis bien personne, n'a demandé aux éditeurs de faire des jeux de solo qui coûtent 100 millions de dollars. À une époque où on a un jeu comme, je sais pas moi, PlayerUnknown's Battlegrounds, qui est une pisse, une chiasse techniquement, vous allez pas me dire qu'il n'est pas possible de faire des jeux moins chers qui vont attirer le public. Alors on me dira, oui, mais PUBG, c'est un jeu multijoueur. Très bien. Stardew Valley. Je sais pas, un mec qui sort de nulle part, qui vend des millions d'exemplaires d'Harvest Moonlight, ça les intéresse pas, les éditeurs? Alors oui, effectivement, faut prendre des risques, mais c'est des petits risques, tu vois. Et à un moment donné, moi, c'est une problématique que je ne comprends pas depuis des années. Très bien, ça coûte cher de faire des gros jeux solo à la Uncharted. Vous pouvez pas en faire des un peu moins gros? Tu sais, des jeux qui sont fignolés, qui ressemblent à ce qu'on appelait des double A, je crois, dans le temps.
Ouais, mais après, moi, enfin, je suis pas trop fan d'appeler un jeu double A, triple A, etc. Parce que c'est comme si, en fait, le jeu double A, entre guillemets, par définition, était moins bon que le triple A parce qu'il y a plus d'argent dessus. Minecraft, à l'époque, quand il est sorti, je suis sûr que tu essayais de vendre ça à Nintendo.
Ah,
à,
jamais.
Voilà, il t'aurait dit, j'en veux pas ton truc. Le truc, il s'est vendu à plus de 50 millions d'exemplaires et encore, je sais même pas quand il s'est arrêté, quoi. Mais c'est juste un truc, c'est hallucinant. Il y a des jeux qui sortent de nulle part qui ont des succès mérités, mais c'est parce que il y a le jeu qui est au centre de tout. Les gens en ont parlé autour d'eux, ça fait un effet boule de neige. Et au final, voilà, c'est tout, t'es récompensé. Après, c'est sûr que tous les jeux qui essayeront de faire ça ne pourront pas s'en sortir de la même manière parce que voilà, il y a très peu d'élus à chaque fois. Mais ceux qui s'en sortent, au moins,
c'est pareil dans le jeu à service. C'est ça le truc, quoi. Enfin,
bah, le jeu à service, après, au bout d'un moment, ça va faire comme pour le MMO. Le MMO, t'auras eu, voilà, World of Warcraft.
Tout le monde a voulu faire son WoW et on a vu le résultat.
Hein. Exactement. Ouais,
c'est ça.
Parce qu'encore, ça serait des jeux solo. Bah, une fois que t'as fini ton jeu solo, tu peux en racheter un autre. Donc ça, c'est cool. Hop, tu rachètes un autre. Donc il y a une dynamique économique derrière. Mais par exemple, quand GTA 5 est sorti, les mecs qui jouent à GTA 5, ils sont encore scotchés de là-dessus, alors que le jeu, ça fait plus de 4 ans qu'il est sorti.
Un pixel.
Il y a des jeux comme ça qui sont des gouffres de temps, parce que c'est des gouffres à temps, quand même. C'est des jeux chronophages. Mais les gens, quand ils jouent à ce jeu-là, ils jouent à un jeu, deux jeux, voire maximum, mais ils peuvent pas jouer non plus à tous les jeux online, quoi. Surtout si les jeux n'ont quasiment pas de fin. Enfin, au bout d'un moment, il faut être logique, quoi. Je trouve ça quand même scandaleux que, aujourd'hui, les jeux linéaires se sont délaissés, quoi.
Alors, moi, honnêtement, hein, que les éditeurs fassent plus des jeux solo, ça m'en touche une sans bouger l'autre, comme dirait l'autre, hein. Parce que les jeux solo, je veux dire, j'ai quand même baissé pour en ramasser. Hein. Ça sera pas des jeux triple A, très bien. Ça sera pas des jeux avec un énorme budget, mais, écoute, j'ai joué à plein de jeux solo ces dernières années et je joue de moins en moins à de gros jeux. Donc fondamentalement, que les éditeurs en fassent plus après, hein, s'ils veulent laisser ce marché-là à d'autres, très bien, hein, y a pas de souci.
Mais moi, je trouve ça quand même assez dommage de laisser un pan de jeu juste parce que maintenant, la mode, c'est les jeux avec des microtransactions intérieures, il faut que le joueur y reste longtemps. Moi, je veux dire, j'ai un boulot à côté, tu vois, j'ai un boulot, je travaille pas mal d'heures dans la semaine. Quand je joue aux jeux vidéo, j'aimerais bien avoir un jeu qui a un début et une fin. J'ai pas le temps, moi, de jouer à tous ces jeux en ligne. J'aimerais bien avoir tout le temps de jouer à tous ces jeux, etc. Mais déjà, les jeux que j'ai envie de faire en solo, j'ai du mal à y jouer. Tu vois, j'ai envie de jouer à The Evil Within 2. J'ai pas le temps d'y jouer encore parce que j'ai des horaires de boulot. Et je sais très bien que maintenant, pour pouvoir jouer à un jeu vidéo, il faut que je m'organise parce que j'ai une vie de famille aussi. J'ai quand même une vie sociale. Voilà, moi, j'ai plus 15 ans. Si j'avais 15 ans, je serais content d'avoir tout ce temps-là devant moi quand j'ai mes vacances scolaires, etc. pour y geeker toute la journée. Mais là, malheureusement, j'essaie de limiter mon temps de jeu et d'avoir des expériences que je pourrais finir. C'est pour ça que moi, j'aime bien les jeux comme The Last of Us.
Des expériences marquantes aussi.
Bah, non, mais c'est ça.
On a vu tout à l'heure Activision, où on va te vendre des trucs, etc. Ça impacte le gameplay à un moment donné. Ça dilue l'expérience. Et quand t'as envie de jouer aussi, t'as envie d'avoir un truc qui te met une baffe dans la gueule. Et ça, tu peux l'avoir dans un jeu solo.
Et surtout, moi, ce que je veux dire, c'est que je veux des jeux qui me marquent, je veux des jeux qui me marquent au fer rouge, je veux des jeux qui me font kiffer, je veux un jeu avec une histoire profonde, je veux un jeu avec, voilà, quelque chose que je me dis, ah putain, ce jeu-là, j'ai envie d'y revenir. Par exemple, la première trilogie Mass Effect, j'avais kiffé son univers. The Last of Us, j'avais grandement aimé la relation entre Joël et Ellie. Red Dead Redemption, je me suis senti au Far West. Mais au moins, ces jeux-là, ils étaient délimités dans le temps. Et quand j'ai fini, je me suis dit, ah, quand même, putain, qu'est-ce que c'était bien. Et puis, quand je vais dormir, ça me fait des souvenirs plein la tête. C'est le type de jeu que je recherche. Après, certes, tout le monde ne recherche pas le même type d'expérience que moi. Mais au moins, s'il vous plaît, laissez-moi continuer à jouer aux jeux vidéo, quoi.
Voilà. On va procéder au vote, messieurs. Parmi les trois, vous me donnez un nom, GameStop, Activision ou Electronic Arts. On va commencer par toi, TH.
Activision pour la manipulation mentale.
Pixel.
Alors, en temps normal, je dirais John Romero, mais j'ai pas le droit de dire John Romero.
Il est pas cité, il est même pas cité, qu'est-ce que tu veux le
bah
mettre?
Bah ouais, mais bon, Daikatana, Daikatana, c'était quand même un gros coup de pute, mais bon,
ouais,
voilà.
Mais ça fait...
Donc je vais dire GameStop. Hein.
Moran.
Moi, je vais dire Electronic Arts pour les emplois perdus.
Donc c'est moi qui vais devoir trancher, vous êtes chiant.
Exactement.
John Romero.
Honnêtement, je dirais pas GameStop parce que GameStop, au moins, on va dire que j'apprécie la franchise, même si c'est des connards, mais j'apprécie la franchise.
Tu veux parler de l'honnêteté, pas la franchise GameStop.
Non, oui, je veux dire la franchise au sens de l'honnêteté, oui. quand même, Activision, c'est assez grave, je trouve. C'est de la manipulation mentale. Alors, je vais dire Electronic Arts. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de dire encore un studio qui a été tué par Electronic Arts. Encore des gens avec du talent qui ont été tués par Electronic Arts. Electronic Arts, en fait, est multirécidiviste dans le domaine. Et je commence à en avoir plein le cul, en fait. Et aussi parce que j'ai très peur que BioWare soit le prochain sur la liste.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Parce que moi, je vous dis que si Anthem se plante, et Dieu sait qu'il y a des chances que ça se plante, parce que on est là encore dans un jeu à service, et surtout, on est dans un jeu qui est très éloigné de ce que fait BioWare habituellement. Je sais pas si ça vous rappelle un studio hein, qui vient de fermer, là. Et ouais non parce que avant de bosser sur Battlefield Hardline et compagnie, je veux dire, ils étaient pas spécialement connus pour leurs jeux multijoueurs Visceral. Enfin bref.
Bien sûr.
Et si BioWare se plante, quand tu vois que en plus il y a tous leurs créatifs qui se sont barrés récemment, des créatifs historiques, ça sent pas bon. Voilà. Donc j'espère pour BioWare qu'ils s'en sortiront. Parce que sinon, ils sont les prochains sur la liste du Serial Killer là. Voilà. Electronic Arts reste le champion, hein, malgré un bravo. Vous êtes officiellement les plus gros fils de pute de cette industrie.
Alors, donc, franchement, vous avez le prix Game Info du plus gros fils de pute de cette année. Ça nous fait
l'année
plaisir
n'est pas
de vous...
terminée, hein.
Oui,
ah,
mais
ouais,
bon.
Ouais, attends.
Mais quand même, Activision, ne soyez pas déçus. Vous êtes passé pas loin parce que la manipulation mentale.
Là, j'ai hésité, là.
Mais là, c'est vrai qu'à côté, il y a quand même pas mal de pertes d'emplois à côté. Mais quand même, Activision, voilà, vous êtes à deux doigts, donc continuez vos efforts, vous allez y arriver.
Surtout aussi pourquoi j'ai voté pour Electronic Arts, parce que je suis à peu près certain qu'ils ont le même genre de projet dans les cartons. Quand tu commences à implémenter ce genre de mécanique, c'est jamais neutre. Quoi que vous dise un éditeur, c'est jamais neutre. Regardez comment fonctionnent les gachas. Les gachas ont été conçus de base pour vous vendre des trucs. Et je suis persuadé que quand un éditeur commence à réfléchir à ce genre de choses, il commence à réfléchir à comment on va vous vendre ces trucs et comment il va altérer ces jeux pour vendre ces trucs. Et même si Activision, on a la preuve qu'ils bossent dessus, je suis quasiment certain que tous les éditeurs, et pas que Electronic Arts, qui bossent sur ce genre de choses, ont une petite idée de comment ils vont vendre ces choses. Donc au final, on va dire que Electronic Arts a eu l'avantage de traiter ses employés comme de la merde par-dessus le marché. Parce que c'est ça le vraiment que je trouve dégueulasse. Tu mets tes employés sur un projet, tu les fais bosser dessus, tu fais venir une nana, en plus moi, une nana aussi pour laquelle j'ai immensément de respect. Amy Hennig depuis Soul Reaver, je vous le dis, c'est mon idole, quoi. C'est quelqu'un, franchement, que j'admire. C'est quelqu'un qui a bossé sur un jeu qui, moi, m'a... On parlait de Fer Rouge tout à l'heure, mais vraiment, quoi, Soul Reaver, c'est un des jeux qui m'a le plus marqué. Et faire venir cette nana-là, pour lui dire quelques mois plus tard, écoute, on sait pas trop ce qu'on va faire de toi, parce que pour le moment, on sait pas ce qui va lui arriver. Soit dit en passant, on sait quand même qu'elle a été remplacée, donc elle est plus directrice du projet, ça c'est certain. Ils savent juste pas quoi en foutre, en fait. Et ça, je trouve ça, mais dégueulasse.
Et d'ailleurs, franchement, enfin, un petit mot sur Amy Hennig, parce qu'on dit souvent que les personnalités féminines dans le jeu vidéo ne sont pas trop présentes, mais Amy Hennig, franchement, c'est une grande dame de l'industrie. Malheureusement, je trouve qu'elle est pas assez mise en avant, vu que c'est une scénariste, et donc, tu vois, elle est pas, elle intervient pas souvent à l'E3 ou ce genre de choses-là. Mais par contre, enfin, dans la saga Legacy of Kain, elle a quand même un talent d'écriture qui était assez incroyable. Surtout pour des jeux à l'époque qui étaient sortis sur PS1, quand tu vois les scénarios qu'il y avait à côté, enfin, tu vois clairement que c'était quand même travaillé ce qu'elle faisait. Pour Uncharted, ce qu'elle a fait aussi sur la physionomie des personnages, la psychologie, le caractère, etc. qu'elle a donné à Nathan Drake, enfin c'était quand même quelque chose d'assez incroyable. Enfin cette dame là, c'est une dame qui a du talent et malheureusement je pense que elle est pas assez récompensée à sa juste valeur et moi j'aime pas, tu vois, quand j'entends souvent dans le jeu vidéo il y a pas cette nana qui sont mis en avant et tout ça, bah peut-être que si on mettrait un peu plus souvent les femmes fortes
qui sont déjà là, ça inciterait peut-être plus de nanas à déjà venir dans cette industrie parce que c'est aussi un problème. Et Dieu sait que celle-là elle a du talent et que ce serait bien de la mettre en avant quoi. Ah,
surtout, bah, enfin, quand tu vois, c'est Legacy of Kain, c'était une, limite une qualité de, t'avais l'impression de jouer un bouquin en même temps, quoi. Et ça, c'est pas rien, quoi. Donc, voilà, j'espère qu'elle retombera sur un projet un peu plus ambitieux et qu'elle pourra avoir quelque chose sur lequel elle pourra s'exprimer avec, nous faire parler de son talent, parce que c'est sûr que quand il y a Amy Hennig sur un projet, moi, j'attends toujours de voir quel jeu il y a derrière et puis, ce qu'elle donne proposer. Donc, voilà.
Bah, il paraît que chez Crystal Dynamics, ils utilisent des trucs pour Legacy of Kain, donc...
Ah !
On sait jamais. Voilà. Bon, allez, à la semaine prochaine. Ciao !
Salut. Salut tout le monde.
Mon fils s'appelle Luigi.
Il est con.